La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Bonjour. Pour cette avant-dernière émission de l'année, nous retrouvons notre invité Jean-Christophe René. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour Claire.
Et nous allons faire une synthèse à partir de la question initiale, qui était finalement celle de la réception possible du réalisme dans la scène internationale philosophique actuelle. Bonjour Jean-Christophe, nous nous posons depuis le début la possibilité de recevoir le thomisme dans une société laïque, dans une société qui ne peut pas bien comprendre ce lien organique entre théologie et philosophie. Et on pourrait même rajouter à ce lien organique un troisième domaine qui est celui de la mystique et qui fonde finalement le philosophé de Jacques Maritain. En tant que physicien et philosophe, vous nous avez aidé cette année à proposer un débat contradictoire et je vous donne la parole pour clore sur cette année. La semaine prochaine, je ferai le point sur la personne humaine selon Maritain dans son anthropologie et dans l'épistémologie.
Merci Claire de me donner cette occasion de terminer, pour ce qui me concerne en tout cas, la séquence sur la réception de Maritain aujourd'hui. Lors d'émissions précédentes, nous avions déjà souligné que la philosophie qui intéresse au premier chef Jacques Maritain, c'est ce que les philosophes médiévistes, héritiers de la philosophie aristotélicienne, appellent la métaphysique. Et dans son ouvrage de 1920, il écrit « La philosophie, et surtout la philosophie au sens le plus élevé, c'est-à-dire la métaphysique, est la science souveraine ». J'avais eu l'occasion de dire lors de cette émission combien la position soutenue par Maritain que la philosophie était supérieure à toute science, y compris la physique, pouvait paraître arrogante et naïve à un lecteur contemporain. Je ne reviendrai pas aujourd'hui sur cet aspect, mais je préfère explorer avec vous de nouveaux horizons en partant de cette philosophie de Jacques Maritain. Alors, héritière de la philosophie d'Aristote, la philosophie thomiste chrétienne se définit comme une philosophie qui s'intéresse aux causes premières. Et cette recherche des causes premières est celle d'une cosmogonie, c'est-à-dire d'une tentative d'explication rationnelle de la création et de la formation du monde en recherchant des causes naturelles à l'origine du monde. Et c'est sans doute dans ce sens qu'il faut entendre l'adjectif réaliste que Maritain accole à sa philosophie de manière équivoque, à mon sens, notamment avec l'acceptation contemporaine de ce que l'on nomme aujourd'hui une philosophie réaliste, comme celle par exemple de Quentin Meillassou. J'avais aussi évoqué ce point lors de l'émission de décembre. De manière très sommaire, hein, en tenant les courants réels, les tenants des courants réalistes, affirment l'existence d'une réalité extérieure indépendante de notre esprit, c'est-à-dire, de façon très caricaturale, et Isabelle Thomas Fogiel parle elle-même de contresens, de présenter le réalisme tout en lui opposant un idéalisme qui, à l'inverse, nierait l'existence d'une telle réalité. Bon, même au temps des médiévaux, le réalisme ne s'opposait pas à l'idéalisme, mais bien plutôt au nominalisme, et ni les uns ni les autres ne doutaient de l'existence des objets hors de notre pensée. Aujourd'hui, on dénombre pas moins de cinq courants réalistes, un courant ontologique ou métaphysique, j'y reviendrai, c'est celui dans lequel s'inscrit Maritain notamment, un courant qu'on appellerait plutôt gnoséologique ou épistémologique, qui est souvent a trait avec les sciences, et un courant sémantique, qui a eu son heure de gloire avec la linguistique, un courant éthique, on en avait parlé, c'est plutôt une éthique de la planète, quelles sont les responsabilités humaines vis-à-vis de cette planète, et enfin un courant esthétique. On va parvenir sur tous ces courants. J'avais déjà dit que Maritain, comme d'ailleurs Heidegger, se situe dans ce courant réaliste, métaphysique, ontologique. Un courant qui pose l'hypothèse de réalité à des entités dont l'existence est postulée par une théorie ou une doctrine philosophique et qui ne peut donc pas être démontrée par les faits. Une telle hypothèse constitue une aporie de l'esprit humain, ou comme l'avait fait remarquer Kant dans sa critique de la raison pure, qu'il appelle une antinomie de la raison. C'est-à-dire qu'on peut trouver autant d'arguments dans un sens que d'arguments dans l'autre. Alors, je sais bien que souvent Kant est décrié, et je voudrais simplement dire que très souvent on classe sa philosophie comme un idéalisme, alors que lui-même dit clairement qu'il refuse ce qu'il appelle l'idéalisme effectif de Leibniz et de Wolff, et que les données empiriques sont premières pour lui. Et donc les sens, dans le sens des sens du corps, sont les données premières avant toute pensée. On devrait plutôt le classer aujourd'hui, si on prend cette nomenclature, dans un courant réaliste transcendantal. Il serait trop long ici de définir plus en détail ce que signifierait le transcendantal dans ce cas. Alors, revenons-en au réalisme métaphysique qui pose la question de l'origine de l'être, et voyons quelle proximité on pourrait voir entre la conception thomiste de l'être avec celle de philosophie contemporaine, et en particulier celle de Martin Heidegger, probablement la figure la plus marquante de la philosophie européenne au XXe siècle, avec son ouvrage majeur, écrit à peu près en même temps que celui de Maritain, « Être et temps ». Sans rentrer trop dans le détail, Heidegger fait une distinction entre l'être qui existe, ce qu'il appelle l'étant, et son essence, son origine. Une deuxième distinction fondamentale qu'il fait est que parmi les étants, les humains sont une catégorie à part, dans la mesure où, selon lui, ils sont les seuls à se poser cette question de l'être, c'est-à-dire de leur essence, de leur origine. Il leur a accordé un terme particulier, de Dasein. On reprend souvent tel quel dans les traductions françaises, et quelquefois qu'on traduit par « être là ». Et dans sa lettre sur un humanisme qu'il écrira à Jean Beaufret, il dira « L'homme n'est pas le maître de l'étang, l'homme est le berger de l'être ». Une très belle formule, mais cette question de l'être est-elle vraiment la plus fondamentale ? Et d'ailleurs, est-elle la seule ? Alors, si vous voulez, j'y reviendrai après un interlude musical.
Oui, nous allons écouter un jeune organiste, Benjamin Allard, qui se propose de jouer les variations Goldberg sur différentes orgues d'Europe. Il s'agit ici de l'orgue Cliquot de Souvigny, et il est en train de faire l'intégrale de Jean-Sébastien Bach sur différents instruments.
Philosophie réaliste, Claire Bressolet.
Très belle illustration pour notre propos, puisque Bach est un Allemand, joué ici sur un orgue français, avec des couleurs très caractéristiques qui ne sont pas celles que Bach a connues. Et ce mariage est splendide, peut-être à l'image de la réception possible de la philosophie de Maritain, philosophie médiévale, comme Bach, qui est considéré par David Moroney comme un médiéval, par sa symbolique et par son rapport à l'écriture musicale, et en même temps un contemporain. Alors pour rebondir sur ce que vous disiez, je pense que l'être, puisque vous disiez le berger de l'être en citant Heidegger, reste finalement la réalité ontologique, même si le mot ontologique apparaît tardivement en 1613, et il va détrôner celui de métaphysique. L'être reste le principe de réalisme le plus prégnant. Pourquoi ? Parce qu'il y a une concaténation entre l'intelligence et l'être, en latin adequatio intellectus et rei, qui fait que les deux vont aller ensemble de manière connaturelle, de manière constitutive, ce qui implique que l'être se dise de manière analogue. Et pour nous, contemporains, puisque la modernité a donné l'univocité finalement comme référence prégnante depuis le principe scientifique et l'exemple scientifique avec l'arrivée des sciences à la Renaissance, puis avec Galilée, cette analogie est quasiment incompréhensible. Et vous l'avez très bien dit, on la considère comme un flou ou comme une antinomie de la raison finalement, parce qu'on ne peut pas démontrer l'être par les faits. Il se perçoit par l'intuition qui est connaturelle à l'intelligence pour percevoir l'être. Du coup, vous parliez de Quentin Meillassoux et de cette philosophie réaliste. Elle n'a de réaliste que le nom, parce qu'elle est régie par un principe d'univocité qui ne fait pas droit à la structure analogique de l'être. Comment définir cette structure analogique ? Par l'articulation de l'un et du multiple. L'un va correspondre à un domaine, on va dire, de spécification, et le multiple à un domaine d'exercice. C'est-à-dire que l'être est un et multiple, et il va se dire ou se décliner ou s'incarner, je ne sais pas quel mot prendre, de manière différente dans la feuille, l'homme, la mer. Et du coup, ça donne une vastitude au champ des réalités qui ne se limite pas aux faits objectivables, mais aussi aux réalités invisibles. D'où la théologie chrétienne qui est articulée sur le monde visible et invisible avec les puissances angéliques, séraphiques, etc. C'est tout cet horizon de pensée qui rend très difficile l'approche du réalisme de Jacques Maritain.
Vous avez tout à fait raison. C'est une d'ailleurs pourquoi je pense que si on veut aujourd'hui peut-être pas seulement comprendre Maritain, mais partir de cette philosophie, il faut, à mon sens, décaler cette question, comme vous l'avez si justement dit, dès le 17e, fin 17e, début 18e, l'ontologie a finalement remplacé ce qu'on appelait avant la métaphysique. La question que je posais juste avant, c'était de savoir si cette question de l'être est vraiment la plus fondamentale en philosophie. Et à cette occasion, j'avais évoqué la lecture d'un livre qui avait été publié en 2020 par Pascal Nouvel. Ce livre s'appelle « Avant toute chose, enquête sur le discours d'origine ». Donc c'est un travail de fond qu'a mené ici Pascal Nouvel pour essayer de répertorier tous les discours sur l'origine, qu'ils soient d'ordre philosophique ou autre. Par ailleurs, je recommande aux auditeurs qui veulent se lancer à lire ce livre parce qu'il est tout à fait accessible même pour un non-philosophe, beaucoup plus accessible en tout cas que celle de Heidegger. Alors, Pascal de Nouvel a fait de nombreuses recherches sur le sujet et il en vient à cette conclusion que la question formulée par Leibniz en 1714, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, est en fait la question la plus fondamentale en métaphysique, au point que certains auteurs, je pense à Francis Wolff, l'appellent la question canonique. Alors, elle est plus fondamentale que la question de l'être car elle n'exige pas d'hypothèse ontologique, justement. Elle est aussi plus fondamentale car, comme le note Pascal Nouvel, elle est sous-jacente à tout récit sur l'origine. Pascal Nouvel dit « La question canonique est logée silencieusement mais profondément dans toute cosmogonie. » C'est-à-dire que les récits de création, les récits d'origine, tous tentent de donner une explication qui en fait répondent de manière implicite à cette question, pourquoi existe-t-il quelque chose plutôt que rien ? Alors, Pascal Nouvel propose une catégorisation originale, et il dénombre quatre grands types de discours sur les origines, chacun d'eux s'appuyant sur une capacité cognitive particulière. Et quand bien même ces capacités cognitives se toisent les unes les autres, en fait, aucune ne peut prétendre à une supériorité sur les autres. Il conteste par là la vision très réductrice qu'avait Auguste Comte avec ses trois âges, l'âge mythique, l'âge rationnel, l'âge scientifique, en plaçant ce dernier au sommet, ce qui n'a fait qu'en fait qu'attiser les ressentiments contre cette philosophie positiviste. Les quatre capacités cognitives qu'il va retenir sont l'imagination, la rationalité, l'explication et la description, et qui conduisent à quatre formes de récits dans l'ordre, qui sont pour l'imagination le discours mythique, qui, comme il le dit, ont la particularité de faire intervenir des événements fabuleux, jamais observés dans la nature, et rapportés à un lointain passé. Le degré d'éloignement de ces événements par rapport au présent n'est généralement pas précisé. Ensuite, la rationalité, qui propose un discours de type rationnel, qui constitue le passage de ce qu'on appelle dans le monde grec du mythos au logos, ou se caractérise par une critique rationnelle. Si les récits cosmogoniques relèvent de la fable, nous dit Pascal Nouvel, comment les choses se sont-elles donc réellement passées ? On retrouve ici cet argument de réalité. Cette racine du réalisme ontologique, que ce soit d'ailleurs dans le discours de Jacques Maritain ou celui de Heidegger. Donc voilà une première ouverture de Maritain avec celle d'Heidegger, qui est son contemporain. Comme je l'ai fait remarquer, Être et temps a été écrit au même moment où Maritain écrit son livre sur la philosophie. Enfin, dans les capacités cognitives, on passe ensuite de l'explication à la description. La description, c'est les discours scientifiques qui s'appuient sur des faits, des observations, sur une idée simple mais puissante. Il convient de reconstituer le passé en mettant en œuvre seulement une causalité observable par celui qui se livre à cette reconstitution. Vous voyez, par rapport à cet aspect d'analogie où on ne peut pas véritablement avoir une causalité de cet ordre-là, puisque c'est une causalité par analogie, le discours scientifique, lui, s'appuie sur une causalité de type naturel. Il ne fait pas intervenir d'éléments surnaturels. Et puis enfin, le dernier discours, le type de discours qu'il recense et qui appelle cette fois-ci uniquement à la description, c'est un courant de pensée beaucoup plus récent dans la philosophie, qui est apparu au début du XXe siècle, fin du XIXe, avec Edmund Husserl comme étant le chef de file de cette façon de faire. Il est un discours qui est très différent par sa structure. Ce type de discours se présente comme lui-même se dit originaire. La phénoménologie ne peut parvenir à ce but, bien évidemment, qu'en donnant à la notion d'origine un sens différent de celui que proposent les autres discours. Pour la phénoménologie, est originaire ce qui est à l'origine de tous les discours possibles, non pas le contenu des discours, mais la capacité même à former un discours qui est un sens. Pascal Nouvel cite d'ailleurs Michel Bitbol, un phénoménologue contemporain, qui écrit à ce sujet que ce qui est visé par l'étude de la conscience n'est autre que le visant. La question de l'origine renvoie ici à l'origine de la question. Pascal Nouvel attribue à ce dernier type de discours cette capacité cognitive descriptive, et nous pourrons y revenir tout à l'heure, si vous voulez, en prenant quelques exemples justement chez Michel Bitbol.
Oui, c'est très intéressant, mais peut-être pourrait-on parler aussi du projet husserlien, qui est celui d'établir une science, parce qu'au fond, il vient des mathématiques, il se réfère dans les méditations cartésiennes au projet cartésien de science universelle, et il le reprend. Donc comment peut-on articuler ce désir de volonté d'origine, de tabula rasa et de sens qui va effectivement concerner le visant, le sujet philosophant, l'être parlant, et le propos de science universelle.
Alors, ça nous prendrait beaucoup plus qu'une seule émission si on voulait effectivement revenir sur ce qu'est la phénoménologie, en tout cas ce qu'elle était à l'origine, et en particulier telle que l'a développée Edmond Husserl. Je vais simplement faire remarquer que entre les recherches logiques qu'il va publier en 1905 et le dernier livre qu'il va publier en 1927, Crise des sciences européennes, Husserl a eu une transformation de sa pensée tout à fait radicale. Donc le sens que prend le terme de scientifique ici est à prendre avec beaucoup de mesures. C'est peut-être un peu court si je dois rentrer dans le détail pour essayer d'expliquer quel sens donner à cette notion de scientifique. Effectivement, il était à l'origine un mathématicien et un logicien, et je pense que ça a influé beaucoup, et notamment ses premiers pas dans ce qu'il appelle la phénoménologie. Pour les auditeurs, il faut peut-être dire que pour Husserl, pour essayer de faire une description la plus objective, il faudrait mettre beaucoup de guillemets derrière objective, possible des réalités du monde, c'est-à-dire, comme il le dira lui-même, aller aux choses mêmes, il faut faire un travail sur soi qui est un travail de mise entre parenthèses de son monde à soi, de son monde psychologique. Donc voilà, c'est ce qu'il appellera l'époké, avec ce mot qui est repris des Grecs sceptiques. Je crois que si on devait rentrer là-dedans, une seule mission ne nous y suffirait pas.
J'ai simplement pointé le mot « science » parce qu'on a finalement deux vis-à-vis. Le projet de la Philosophia Perennis, avec la science des sciences, qui est la métaphysique, et un autre projet bien moderne, d'une science universelle. Et ce projet est hérité de Descartes et permet un dialogue. Il nous reste une minute exactement pour que vous puissiez conclure ou peut-être réagir, si vous voulez, on fait l'émission la semaine prochaine ensemble pour poursuivre ce débat. Si vous en avez le besoin, la nécessité, je suis prête.
Écoutez, non, alors s'il me reste une minute, je vais peut-être dire quelque chose par rapport à des philosophes contemporains. Le mot science, il faut savoir aussi, lui-même a évolué. Par exemple, Heidegger reprend aussi ce mot science dans sa philosophie, en prétendant que ça soit la philosophie scientifique, mais en se basant sur une définition du mot science qu'on avait encore au XIXe siècle et jusqu'au début du XXe siècle. J'avais peut-être eu l'occasion de dire que l'avènement, dès les années 1925, de la physique quantique va profondément changer la définition de ce mot de science. Là aussi, si je voulais développer, il me faudrait beaucoup plus. Mais voilà, il faut bien comprendre que quand on utilise le mot science, le mot lui-même ne porte pas sur les mêmes choses. Quand on parle de science aujourd'hui, science si vous allez dans les articles d'écrivains contemporains, même dans les années 1920 jusque dans les années, on va dire, 1950, où on avait de la science, cette définition que vous aviez évoquée au départ, à savoir la science moderne, celle de Galilée, Newton, sens essentiellement mécaniste et déterministe. Voilà, la science a évolué énormément, on va dire, pour faire très vite, dès l'avènement de la science thermodynamique, qui ne s'appuie pas du tout sur les mêmes principes, et encore plus avec les sciences qui ont développé des théories sur les gaz. On s'éloigne de plus en plus d'un objet en dur, ou ce qu'on appelle le solide en mécanique, pour aller vers des objets qui passent d'abord par l'eau, qui est donc déjà quelque chose d'informe, et puis encore plus informe, le gaz. Et on va dire que ça va modifier complètement la vision qu'on a des sciences.
Donc, vision différente selon le temps. L'histoire reste donc déterminante. Et nous reprendrons ce débat la semaine prochaine. Merci encore Jean-Christophe de nous avoir accompagnés au cours de cette année. Et à une prochaine fois. Au revoir.
Au revoir.